8h39 sur France Inter, on passe à la revue de presse et ce matin c'est avec vous Frédéric Pommier, c'est vous qui avez lu les journaux, bonjour.
Bonjour Amélie et bonjour à tous. Et tout d'abord j'ai une question, Amélie, question simple, il n'y a aucun piège, quelle est votre couleur préférée?
Ma couleur préférée c'est le vert.
Eh bien c'est ce que répondent 14% des gens, voyez-vous, si l'on en croit l'étude dont fait écho la revue L'Éléphant, 8% des personnes interrogées répondent qu'elles préfèrent le rouge. Et 42% répondent que leur couleur préférée, c'est le bleu. Et c'est l'histoire de cette couleur que l'on découvre dans cette heureuse publication dédiée à la culture générale. Si vous ne connaissez pas L'Éléphant, c'est vraiment très bien. L'histoire du bleu en Occident, c'est donc le titre du dossier, inspiré notamment par les travaux du formidable Michel Pastoureau. Et l'on apprend que le bleu a longtemps été associé à des valeurs négatives. Chez les Grecs et chez les Romains, c'était la couleur des barbares. Et il a fallu attendre le Moyen-Âge pour que le bleu accède à la popularité. À la Renaissance, il est devenu la couleur de la raison. Puis au XVIIIe siècle, la couleur du romantisme, les souffrances du jeune Werther. Goethe, le héros, porte une longue veste bleu nuit et c'est à cette époque que fut créé le bleu de Prusse. Mais ce matin, le bleu est plutôt la couleur de la déception.
La déception des footballeuses françaises.
Battue de 2-1 hier par les Américaines, pour elles, c'en est donc fini du mondial. Leur visage défait, abattu à la une de nombreux journaux. Clap de fin, se désolent les dernières nouvelles d'Alsace. Tandis qu'une bonne partie de la presse régionale évoque le rêve brisé des bleus. La gueule de bois, titre de son côté. L'équipe dépassée en première période, magnifiques ensuite, mais battue. Les bleus n'iront donc ni en demi-finale, ni aux Jeux Olympique. Et le quotidien de pointer une main américaine non sifflée par l'arbitre, une main dans la surface de réparation qui aurait pu mériter un pénalty. Commentaire de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Il ne faut pas se le cacher, dit-elle, c'est un échec sportif, on est loin de notre objectif maintenant. J'espère qu'on a gagné autre chose, et cette autre chose, elle estime que c'est le cœur des gens. Confirmation dans Le Parisien, qui lui estime que l'engouement du public dans les stades, sur les canapés, comme l'engouement des adolescentes, ne va pas s'arrêter là. Le Parisien, qui ce matin rend hommage aux joueuses tricolores, deux mots à la une, c'est « merci mesdames ».
Le bleu, on le retrouve également sur les photos.
Des ciels bleus, ça et là, avec bien sûr des dossiers sur la canicule, record battu hier en France, 45,9 degrés, le chiffre s'affiche à la une de Midi Libre. Et dès lors, la Marseillaise propose différents plans pour trouver la fraîcheur ce week-end, tandis que la Voix du Nord fait la promotion d'un vêtement qui permet de supporter la chaleur, la robe chemise. À la plage ou en ville, le quotidien la présente comme la star de l'été et elle peut éventuellement être à fleurs comme la vôtre.
On dit tout.
Amélie, cela dit, on trouve aussi d'autres couleurs dans les journaux ce matin.
Il y a du blanc par exemple.
Le blanc d'une tasse isotherme. Celle dont se servait hier soir Vladimir Poutine au dîner clôturant la première journée du G20 à Osaka. Une tasse frappée des armoiries de la Russie. Les autres chefs d'État, eux, buvaient dans des verres de classiques verres à pied. Et comme le relève le Huffington Post, cette étrangeté a suscité quantité d'interrogations sur les réseaux sociaux. Poutine aurait-il peur de se faire empoisonner? Que nenni, a cru bon de répondre le Kremlin, que niette. Pour désamorcer ce début de polémique, son porte-parole a donné la raison de la tasse en thermos. C'est parce que Poutine boit en permanence du thé. Le G20 qu'on retrouve dans Le Parisien ce matin, dossier à l'occasion de l'entrevue qui s'est déroulée ce matin entre Donald Trump et Xi Jinping, le leader chinois, deux hommes que tout oppose, nous dit-on, mais qui ont finalement convenu de relancer les relations commerciales entre leurs deux pays. Et puis Trump, on le retrouve également à la une du Figaro, qui nous explique comment il peut être réélu en 2020. Plusieurs facteurs sont mis en avant, la fidélité de son électorat, le soutien de son parti, mais également l'argent. Son comité de campagne a déjà levé plus de 150 millions de dollars, dont 25 millions dans les 24 heures qui ont suivi le lancement de sa nouvelle campagne. Grande photo du bonhomme en page intérieure, cravate rouge et cheveux jaunes.
Et le jaune, on le retrouve dans la revue 21.
21, donc vraiment. Je vous conseille la lecture, y compris l'édito, qui évoque le questionnaire récemment envoyé aux abonnés de la revue. La question était, pourquoi nous lisez-vous? Les réponses disent tout, parce que 21 s'intéresse aux gens ordinaires, parce que 21 raconte des histoires hors des sentiers battus. Et c'est encore le cas avec ce numéro d'été. La revue nous emmène dans une réserve Sioux, en Syrie, aux côtés des Occidentaux qui ont pris les armes pour lutter contre le groupe État islamique. Elle nous raconte la mafia du sable en Inde. Des criminels pillent le lit des rivières indiennes et puis donc une enquête sur les gilets jaunes. Mais non pas ceux qui les portent, mais ceux qui les fabriquent, ceux qui les distribuent et s'enrichissent avec, où l'on découvre que ce vêtement en polyester, devenu le symbole de la contestation sociale en France, est un objet mondialisé par excellence quand on remonte sa trace. On se retrouve en Pologne, en Turquie, en Chine, au Pérou, et l'on découvre une cascade de holdings et même de paradis fiscaux. D'un côté, des milliardaires, de l'autre, une main-d'œuvre exploitée, c'est finalement le jaune de la trahison sociale qui nous est racontée ici.
Frédéric, on trouve également du rose dans les journaux.
Ou plutôt du rosé. C'est à lire dans M, le magazine du Monde. Le rosé connaît un succès sans précédent, notamment grâce aux jeunes consommateurs qu'ils boivent en toutes circonstances et photographient même les bouteilles pour les poster ensuite sur Instagram. Et puis vous disiez que vous aimiez le vert. Eh bien, il y en a aussi dans la presse de cette semaine un dossier sur l'écologie dans les pages de Society et plus précisément sur la difficulté d'assumer au quotidien le souci de l'environnement. C'est entendu, la planète est en danger et si nous ne faisons rien, nous courons tous à notre perte, mais toutes les actions individuelles de bonne conduite ne semblent se résumer qu'à des gouttes d'eau dans l'océan. De quoi faire naître, nous explique le quinzomadaire, une frustration qui désormais porte un nom, c'est l'éco-culpabilité. Une éco-culpabilité que nous renvoient parfois nos proches, on leur rend visite en voiture, ah bah dis donc, c'est pas vraiment écolo. À la sortie de l'école, on apporte une banane pour le goûter du petit, la mère d'un autre s'époumonne. Vous mangez encore des bananes, vous ? Virginie, 50 ans, témoigne dans le magazine. À Pâques, ma sœur nous a annoncé qu'elle refusait qu'on prépare un gigot flageolé parce que le mouton est trop vorace en herbe et en eau et que son empreinte carbone est catastrophique. Ça a, dit-elle, créé quelques tensions. Tu m'étonnes.
D'autres couleurs pour finir, Frédéric ?
Oui, celle de l'arc-en-ciel. Ce matin, Libération s'intéresse à la Gay Pride. La marche des fiertés qui aura lieu ce samedi à New York comme à Paris. 500 000 personnes attendues dans les rues de la capitale. L'occasion d'un très intéressant dossier. Lutte LGBT, 50 ans de fierté. Retour sur les émeutes de Stonewall aux États-Unis. Une descente de police dans un bar gay new-yorkais, événement considéré comme la genèse du mouvement LGBT+. C'était il y a 50 ans dans l'Express. Vous lirez comment la communauté gay résiste face au pouvoir de Jair Bolsonaro, lequel a dit un jour qu'il préférait avoir un fils mort dans un accident de voiture qu'en couple avec un moustachu. La lutte est donc toujours d'actualité. Ce matin, je vous souhaite une journée pleine de couleurs.
Toutes les couleurs de la presse. Merci Frédéric Pommier. C'était la revue de presse sur France Inter.